Merci Pierre Kroll.
Extrait d'un samedi d'enfer avec Pierre Kroll que vous connaissez bien. Est-ce que pour vous, ce bonhomme est différent, le Pierre Kroll dessinateur et le Pierre Kroll chroniqueur?
Le Pierre Kroll, j'ai eu la chance de passer quelques jours de congé avec lui. C'est un homme étonnant. D'abord, il a oublié une chose sur Donald Trump, c'est que Donald Trump n'aime pas toucher les gens. Il a une peur panique des virus, des microbes, des maladies. Donc, il se lave les mains tout le temps avec de l'eau de Javel, je crois. Et je m'étonne de l'avoir vu saluer des personnes en leur serrant la main dans des congrès parce qu'il n'aime pas ça. Donc, Pierre est un homme singulier, étonnant, tout le temps en alerte. C'est une vigie. Et en fait, il est à la recherche d'images, de confrontations, de paroles. Et puis, tout d'un coup, l'idée surgit. Et je me souviens de lui avoir demandé s'il n'avait pas la peur de la page blanche, parce que finalement, tous les jours, pour le soir, il doit écrire, il doit faire un dessin. Et pas du tout, il vit ça avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de placidité. Mais il a besoin, je crois, d'un espace de liberté intérieure qui est insoupçonnable. Et en fait, il est extravagant. Il est extravagant dans son dessin, dans sa façon de voir les choses. D'ailleurs, quand il a dessiné quelques croquis dans le livre, il l'a fait en faisant de l'humour sur de l'humour. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dessiner les scènes que j'avais écrites. Il a voulu les dériver dans quelque chose d'encore plus drôle que ce que j'avais écrit.
Et quand vous l'entendez en radio, quel est le ton de Pierre Kroll? Pourquoi est-ce qu'il vous fait tant rire?
Parce qu'il ne laisse aucune limite à son imagination. C'est-à-dire qu'il est capable, de manière osée, de manière audacieuse, de relier des choses. Quand il parle maintenant de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, en fait, il raccroche des choses que tous nous connaissons, que tous nous avons pu imaginer, en les empaquetant dans quelque chose qui est inattendu. Il a une créativité en lui qui est tout à fait insoupçonnée. Et en fait, il crée un humour d'immédiateté. C'est-à-dire que c'est un humour dont on rit tout de suite, immédiatement, un peu comme ses dessins. C'est pas un humour de philosophie, c'est pas un humour de long terme. Le seul dessin dont je me souviens de lui avec peut-être le long terme, c'est quand il avait dessiné trois bonhommes, toujours avec un énorme nez, qui regardaient quelque chose par terre. Et en fait, c'était la fortice qui était devenue tellement petite en valeur qu'on n'arrivait plus à la distinguer. Mais c'est un humour de rupture que Pierre crée.
Dans ce bouquin 50 nuances des gris paru aux éditions Renaissance du Livre, vous croquez entre autres les chasseurs de têtes.
Oui, et figurez-vous qu'en plus, avec une outrecuidance scandaleuse, j'ai lu dans un dîner, et je ne serai plus jamais invité chez cette personne, cette scène au patron de la plus grande boîte de chasseurs de têtes de Belgique. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup aimé le texte. En fait, l'histoire du chasseur de têtes, c'est que j'explique que finalement, il est important quand on y va de bien cirer ses chaussures. Parce que le chasseur de tête est à la recherche de la minutie, des détails. Il fait toujours passer, en l'inspectant de la tête aux pieds, le candidat dans la pièce dans laquelle il ne faut surtout pas prendre de café parce que le tremblement des mains pourrait faire tomber quelques taches. Il regarde en fait si les chaussures sont bien cirées derrière. Et d'ailleurs, ma mère me l'ayant expliqué quand j'avais 18 ans, je ne suis jamais sorti à une réception importante sans avoir fait extrêmement attention au cirage de mes chaussures derrière.
Je regarde du coup mes pompes et je ne vais pas aller voir un chasseur de tête tout de suite. Vous restez avec nous, bien entendu, Bruno Coleman. Je sais que vous aimez aussi la musique.
Sérieux délire. La première. 16h-17h30. Sérieux délire.
Sérieux délire avec notre invité Bruno Coleman. Vous me disiez pendant qu'on écoutait la musique, dans le milieu de l'économie, ce bouquin, il a été, on va dire, diversement apprécié. Il y a des gens qui vous inviteront plus jamais.
Plus jamais, ça c'est certain, parce que j'ai dévoilé des côtés un peu obscurs, j'ai cassé les côtes. J'avais envie de le faire, d'ailleurs je l'ai fait de manière volontaire. Mais ce qui m'est arrivé de tout à fait étonnant, c'est que certaines personnes n'ont pas aimé, mais d'autres ont beaucoup aimé. Et en fait, j'ai reçu, sans exagération, peut-être des dizaines de lettres et d'emails de grands patrons d'entreprise à qui j'avais envoyé le livre par sympathie et qui m'ont dit, tous avec une scène différente, celle-là, je l'ai vécue, elle m'a touché. Tu as révélé quelque chose, une faiblesse, une douleur préalable que nous avons tous. Et j'ai même eu cette scène extraordinaire dans un conseil d'administration d'une personne qui avait reçu le livre, cette remarque de me dire « mais pourquoi est-ce que cette histoire, parce qu'une histoire d'amour en fait qui est fictive dans le livre, se termine mal ?» Donc, certains chefs d'entreprise en avaient donné une réalité. Et finalement, je crois que l'impact a été positif, mais en même temps, je sais qu'on m'a vu différemment parce que je n'avais pas respecté l'omerta, on va dire, de la loi des affaires.
C'est vrai, quand on lit par exemple ce titre, hein, « La genèse du capitalisme », on se dit « Oh, voilà un texte très sérieux ». Et puis vous commencez par ceci. « Les toilettes pour hommes des entreprises sont la véritable école de la vie. Certains les surveillent pour s'assurer de ne pas être intimidés par la proximité d'un autre, dans l'urinoir adjacent, un peu comme au premier étage de la pompe de Branlin entre Bruxelles et Luxembourg, quand on s'est retenu pendant 100 km et qu'un camionneur roumain géant prend la Vespasienne d'à côté. Grand moment de solitude, ça sent le vécu. Y a-t-il plus ridicule que des hommes de tailles différentes, les épaules courbées, les mains concentrées, se guettant tout en échangeant des banalités ou des rires nerveux pour conjurer le bruit, ou plutôt l'absence de bruit? Car dans les toilettes pour hommes, on reconnaît aussi le chef, il pisse fort, comme il gueule parfois, à en fissurer la faïence, à en pulvériser la céramique. C'est tellement vrai.
Mais c'est une réalité, c'est une réalité. D'ailleurs, dans les toilettes pour hommes, on dessine maintenant une petite cigarette ou une petite mouche pour bien viser, parce qu'il y a un grand sujet de perplexité chez les femmes de ménage dans les entreprises. Ce sont les hommes qui, je crois, par révolte, font pipi au-dessus de l'urinoir. Et donc, ça fait partie des réalités de l'entreprise aussi.
Vous avez cité tout à l'heure un ancien Premier ministre belge. On avait quand même très, très envie de réécouter ce grand moment de surréalisme belge.
Et la Brabançonne, vous la connaissez ?
Un peu, oui.
Allez-y.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est...
C'est vraiment la Brabançonne, ça.
Pardon ?
La Brabançonne, c'est vraiment ça.
Oh, je sais pas.
Vous vouliez réécouter hein, cet extrait, et aujourd'hui encore ça vous fait rire.
Ah oui, ça fait rire. Je crois que ce Premier ministre va laisser son nom à la postérité. Mais le plus drôle, c'est la scène qui a suivi. En fait, il est rentré dans la cathédrale Saint-Michel, et en fait, il a passé son temps à téléphoner sur son BlackBerry, se rendant compte, à mon avis, qu'il avait fait une erreur. Je crois qu'on l'a appelé en grande urgence. Et je crois qu'il a inventé que son père avait eu un malaise cardiaque, alors que son père était tout vaillant, en train, sans doute, de bêcher son jardin. Et donc, je crois qu'il a dû avoir très, très mal au cœur.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en effet, on garde cette image de ce bonhomme. On oublie, en fait, ce qu'il a fait pour la Belgique.
Mais c'était un très, très bon parlementaire. C'était un excellent parlementaire spécialisé en budget, qui était extrêmement respecté. Je crois que simplement, il est tombé dans une marmite qu'il connaissait mal et finalement dans un moment un peu difficile. Mais cette scène est terrible pour lui parce que je crois qu'il a révélé quelque chose qui est ineffaçable maintenant. Finalement, Google est la pire des justices aujourd'hui.
Vous avez été ancien directeur de cabinet du ministre des Finances. Est-ce qu'on rit ? Dans les cabinets, pas les toilettes dont vous avez parlé, les cabinets du ministre des Finances.
Non, c'est une vie qui n'est pas très drôle. Je ne suis resté qu'un an chef de cabinet avec Didier Reynders, qui était un homme pour qui j'ai une énorme admiration. Donc il faut aller vite, il faut suivre beaucoup de choses en même temps. Et donc c'est une vie qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de persévérance et qui demande surtout d'être en dialogue, sachant qu'en plus, les gens qui vont dans le cabinet ministériel, venant du monde extérieur, sont dans la revendication permanente. Donc c'est un monde pas facile. J'en ai tiré d'ailleurs un énorme respect pour les hommes politiques, me rendant compte qu'en fait, ils devaient se concentrer en permanence sur leur propre réélection, mais surtout sur le quotidien de ce qu'ils font, qui est parfaitement inconnu du commun des mortels, et sachant qu'en plus, ils sont responsables de la gestion de l'État. Or, l'exercice de l'État, c'est quelque chose de très, très compliqué.
Vous venez de parler de revendications. On a un autre type de revendication à vous faire écouter.
Camarades, rappelons-nous que la grève est parfois la seule issue pour emmerder ceux qui vont au boulot. Cohérence, hein, les... Cohérence. Alors, pour emmerder ceux qui vont au boulot, nous serons les derniers. Car nous savons votre combat. Oui, nous ouvrières, nous travaillons comme des abeilles. Et nous n'avons droit qu'à la politique de l'autre ruche. Accroche tes mots, René ! Et aujourd'hui, nous avons une pensée émue. Il faut faire les liaisons, mais oui. Pour tous les travailleurs du secteur des transports en commun, trop souvent en proie à la violence et aux dealers, oui, la drogue est trop présente dans les métros bruxellois. Disons-le tout net, stop au stup à la stip.
Jérôme Dewarzé, extrait de son spectacle avec ce fameux syndicaliste. Là aussi, on est dans la caricature, quoique.
Quoique peut-être, pas tout à fait. Mais ceci étant, j'aime bien le combat syndical. Je comprends, il est parfois un peu exagéré, un peu véhément, mais il est sans doute en grande partie légitime. Et puis j'aime bien, par exemple, Raoul Edebaou. Je le connais depuis un certain nombre d'années. Et en fait, je crois que c'est important de dialoguer avec des personnes qui ne pensent pas de la même manière. C'est vrai que Marc Goblet est un peu moins audible ces dernières semaines. Mais finalement, il y a un message, il y a un combat. Et je crois qu'en faire fi serait une erreur.
Comment est-ce qu'on fait pour justement dialoguer quand on a... Mais voilà votre carrière, votre parcours, vos idées que vous vous retrouvez parfois face à un syndicaliste, pas un représentant des syndicats, mais un syndicaliste qui vous dit « mais vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous dire, vous ne comprenez pas, vous l'économiste, ce que nous on vit tous les jours ».
Non, c'est vrai. Et j'étais pendant très longtemps un économiste de salon, un économiste de la mathématique, cherchant dans la pureté des équations une solution à tout problème économique. Et c'est vrai que la crise de 2008 m'a profondément métamorphosé, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une autre réalité, non seulement parmi les gens que je connaissais, mais il y avait une autre réalité sociale. Et en fait, je suis allé moi-même vers des personnes qui pensaient différemment. Je suis allé vers Loretta Unkelings, vers Paul Magnette. Thierry Botson est un homme avec qui je m'entends bien et qui, en fait, à une époque, écrivait des textes enflammés contre ce que je pensais. C'est vrai que j'ai inventé les internationales et ça n'a pas été à la mode pendant très longtemps, mais qui m'a en même temps accueilli dans le dialogue. Et on a gardé de très bons contacts. D'ailleurs, on fait parfois des débats contradictoires ensemble.
Quand je dirigeais la Bourse en 2008, c'est un autre titre de votre bouquin 50 nuances d'aigri. Depuis septembre 2008, les cadres supérieurs ont peur. Ils ont la trouille car finalement, l'homme déteste son prochain. Ils ont la peur au ventre. Tous les jours, ils ont la nausée, l'estomac noué, la transpiration froide dont l'odeur rappelle le linge mal séché. Ils ont écœuré les marchés. Aujourd'hui, ce sont les marchés qui se vengent, leur donnant des haut-le-cœurs. Cette crise aspire tout, elle avale même les hommes qui ont compris qu'ils ne comprennent plus rien. Ils ont la peur de ne pas pouvoir partir avant que tout ne s'écroule et tout s'écroulera.
Oui, je l'ai écrit et j'assume. Vous savez, le capitalisme, la bourse surtout, c'est un immense table de jeu sur laquelle il y a une paire de dés qui roule. Et en fait, on commence à suivre les dés en espérant que ça fasse un double 6. Et puis à un moment, on meurt. Et puis quelqu'un d'autre prend le relais. C'est une immense course. Et en fait, quand j'ai vu en 2008 cette crise, j'ai moi-même perdu pied parce que je n'arrivais pas à comprendre comment la valeur pouvait disparaître, pouvait être englouti avec une telle rapidité. Et j'ai vu aussi des banquiers, mais je me range parmi les banquiers, en fait, être perdus dans leur vie et se poser vraiment des questions existentielles quant au sens de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, ça s'est rétabli. Il y a une conscience sociale bien plus forte qui s'est révélée. Mais certaines personnes m'ont dit après la crise que j'avais été pendant quelques jours comme un zombie dans mon bureau. Je ne me souviens même plus de l'homme que j'étais. Donc j'ai dû avoir quelques moments d'inconscience, en tout cas intellectuelle.
Est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette période ?
Je n'ai pas le regret d'avoir...
Humain, je parle humain.
C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à communiquer. J'ai passé beaucoup de temps dans les médias pour expliquer les choses. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est que c'était beaucoup plus qu'une crise boursière. C'était une crise socio-économique, une crise qui allait devenir sociale. Et parfois, j'ai peur de savoir ce que cette crise, qui est toujours maintenant bien vivante, va devenir dans le futur. Ça risque de devenir une crise encore peut-être plus brutale, plus guerrière peut-être un jour, qui sait. Donc, je n'ai pas compris qu'en 2008, il y allait y avoir un déchaînement des éléments d'une telle envergure.
Eh bien, alors, on va se détendre.
Sérieux délire. La première.
Sérieux délire.
Sérieux délire avec Bruno Coleman, économiste, auteur, entre autres, de ce livre 50 nuances d'aigri. Il y a un personnage aussi qui a marqué plusieurs générations, que vous vouliez réentendre. C'est dommage, on n'a pas l'image, on est en radio, mais quand même, rien que par le ton, on redécouvre et on imagine très très bien la scène.
Alors, 1 kg kartoffel, 1 L milch, 3 Eier, 90 g butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss.
Je répète, Herr Müller.
Ich wiederhole. 1 kg Kartoffeln. 1 L Milch. 3 Eier. 90 g Butter. Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller.
Louis de Funès, dans le grand restaurant, et cette scène formidable où l'ombre de l'éclairage transforme le visage de Louis de Funès en un portrait d'Hitler. Pourquoi vous vouliez réécouter à la fois cette scène, mais aussi Louis de Funès ?
Mais comment rester sérieux quand on pense à cette scène extraordinaire où effectivement, ça c'est l'humour que j'aime bien, c'est l'humour de l'absurde. On a un homme qui est normal, qui est bien policier, puis qui tout d'un coup voit son visage se déformer avec ce jeu d'ombre, qui crée une moustache et une grande mèche. La guerre est quelque chose de terrible. Mais ça m'a toujours fait rire parce que je me suis demandé avec quelle outrecuidance les Français avaient osé filmer cette scène, finalement, il y a quelques dizaines d'années, c'est-à-dire une période qui était beaucoup plus proche de la guerre. Mais donc, c'est tout l'humour qui ressemble finalement à Monty Python, qui ressemble à ces scènes un peu extraordinaires de comicali ou autre, de quelqu'un qui a une fonction et puis qui tout d'un coup perd la boule et devient un autre homme en quelques secondes. C'est l'humour que Gottlieb m'a appris.
Ça a été le cas aussi d'un président américain, George Bush, à un moment bien particulier. Là aussi, vous vouliez reparler de cela. George Bush Jr., qui apprend que les attentats du 11 septembre viennent d'être perpétrés.
Oui, ben ça c'est le moment où en fait on le voit être prévenu dans une classe et on voit alors très bizarrement ses yeux jouer un rôle de pendule en cherchant une aide finalement introuvable et se demandant ce qu'il doit faire. Et donc il reste immobile, fou de pouvoir en faire plus. Et c'est singulier parce que ces événements ont déclenché un basculement géopolitique absolument extraordinaire et on voit un homme qui est seul, qui est sans aide, sans ses conseillers, finalement perdre pied. Et il n'a jamais récupéré en fait le moment de patriotisme qu'il aurait pu susciter à ce moment-là.
L'image de l'homme politique est très très difficile à maintenir. À cadenasser aussi. Il y a un autre exemple, c'est avec Nicolas Sarkozy. Il y a des scènes que vous adorez.
Oui, il y a Nicolas Sarkozy qui est un homme étonnant. D'abord, c'est un homme assez fascinant parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois, de parler quelques minutes avec lui. Et c'est un homme qui a un magnétisme personnel tout à fait hors du commun. Je dois dire que quand je lui ai serré la main, et je n'ai jamais ressenti ça, sans doute avais-je moi-même suggéré en fait ce sentiment, mais j'ai senti quasiment comme un fluide qui passait de lui à moi. Donc, c'est